Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sophie Rosemont, Clémentine Goldsan et Olivier Lam pour parler ensemble de Immensità, de Andrea Laszlo de Simone. Aloha, c'est le disque de Sun Little. Traditional Techniques, c'est celui de Stephen Malkmus. Il y aura un coup de cœur d'Olivier Lam pour Be Up Hello de Square Pusher. Nous ouvrons cette dispute avec Immensità d'Andrea Laszlo de Simone. Le Turinois s'est fait connaître en 2012 avec un premier disque autoproduit. Il a livré ensuite Uomo Donna, sorti sur 42 Records, ou 42, peut-être, Ricordi. Olivier Lam, quand vous êtes allé à la rencontre du musicien dans sa ville, ce qui a donné lieu à une double page dans Libération pour 4 titres, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit portrait de ce musicien pour introduire notre dispute?
Oui, c'est un assez jeune musicien. Enfin, il a 34 ans et il a une carrière, déjà assez longue derrière lui. Il a joué dans plusieurs groupes auparavant, donc je n'invite pas forcément les auditeurs à aller voir à quoi ça ressemble. Pas très intéressant, et donc qui a déboulé un petit peu, déboulé c'est un bien grand mot, enfin il y a eu une sorte de petit bruit, les gens commençaient à s'échanger comme ça son nom sous le manteau. Ça tombe bien, c'était sur YouTube et sur certaines plateformes de streaming, comme vraiment un truc totalement ahurissant, qui venait d'Italie, ce qui en plus allait bien avec une sorte de storytelling autour d'un renouveau en Italie, autour de la...
Comment on dit storytelling en italien?
Je ne sais pas.
Et en français?
En français, je sais pas c'est quoi le mot officiel.
Je sais pas, on va chercher.
Non mais Christian Salmon a écrit un livre qui s'appelait Storytelling, donc ça...
Oui mais c'est pas la raison.
Un récit marketing, on va dire.
Oui, voilà. Marketing
Et donc, je sais plus où j'en étais.
On racontait des histoires sur l'apparition de ce Turinois.
Voilà. Voilà, un truc ahurissant comme une sorte de résurgence d'un âge d'or de la chanson italienne progressive et un peu expérimentale. Il se trouve que ce garçon de 34 ans est totalement récalcitrant à l'idée de faire une sorte de... quelque chose qui ressemblera officiellement à une carrière, donc il est très intéressant, très touchant, même si je pense qu'il surjoue un peu le refus. En l'occurrence, c'est un jeune de 34 ans qui a deux enfants, qui s'en occupe, qui leur fait à manger et qui, la nuit, enregistre des chansons absolument splendides d'ambition et d'humanité.
Ça, on est déjà plus dans la présentation, dans la critique. Mais justement, un premier regard sur cette Immensità, Sophie Rosemont.
Andrea au pays des merveilles.
Et Clémentine Goldsan.
Égoïsme.
Égoïsme. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Et Olivier, on a un peu compris.
Bah, 4 titres qui méritent de prendre l'avion, à eux tout seuls, de prendre l'avion jusqu'à Turin.
Bon, on peut, sans prendre l'avion, oui, parce que votre bilan carbone est déjà pas fameux, on peut rencontrer sa musique. Et on va rencontrer tout de suite le titre qui donne son titre à l'EP, Immensità.
Thank you.
questo è immensità, e lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore, anche questa è immensità, tutta la realtà è immensità, come il sogno poi si dissolverà.
Andrea Laszlo de Simone, et oui, c'est bien un disque de 2020 dont vous venez d'entendre un extrait dont on va parler maintenant, de ce 4 titres. Sophie Rosemont, Andrea, au Pays des Merveilles, et vous avec ou pas?
Ah, complètement. Je le suis les yeux fermés, prête à subir tous les obstacles, les mésaventures d'Alice pour suivre Andrea.
C'est vrai, qu'est-ce qui vous provoque cet effet-là?
4 chansons, 4 réussites éclatantes, avec une préférence pour le dernier morceau qui s'appelle Conguillé, j'espère bien le prononcer, qui signifie coquillage, qui est vraiment une merveille quand Paul Verlaine rencontre Portishead, parce qu'il y a un accord qui rappelle beaucoup les accords du début de la chanson rappellent beaucoup celui de The Rip de Portishead, qui est une des mes chansons préférées du monde d'une part. Ensuite il y a un bruit de pluie qui me fait penser à Verlaine, et puis ils ont tous les trois cette mélancolie poignante, mais qui est là à chaque fois, est portée par un souffle romanesque qui est très fort dans ces 4 chansons, qui parlent de la vie, de la mort, entre-temps de l'amour qu'il y a eu. Donc le titre qu'on vient d'écouter dit « Dès demain commencera une nouvelle éternité ». Clairement, c'est la naissance, c'est l'infini des possibles. Et puis on termine donc avec « Coquillage », donc « Conguillé ». « Nous sommes seulement des coquillages éparpillés sur le sable, rien ne nous fera revenir à l'époque où la mer était calme ». Voilà, c'est extrêmement beau, et c'est pas seulement sur les thématiques que c'est beau. D'ailleurs, la thématique répond à la manière dont agit ce garçon qu'Olivier Lam raconte dans ce papier. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de faire ses morceaux, tout simplement parce qu'il pensait même pas spécialement les sortir. Si j'ai bien saisi l'histoire de cet artiste, d'Andrea. Et le temps, c'est aussi ce qu'il raconte là, dans ce qu'il a de plus terrible et à la fois de ce qu'il a de plus enthousiaste. Et du point de vue mélodique, c'est parfait. Alors, on a beaucoup parlé de Lucio Battisti en parlant d'André Lazzo de Simone, sans doute pour le côté italien. Moi, à part 2 ou 3 titres dans Anima Latina, je vois pas forcément une si forte affiliation que ça. Moi, je pense avant tout à des références anglo-saxonnes, à un Idrey qui serait plus baroque, ou évidemment à Sujvan Stevens, avec lequel il partage un sens mélodique vraiment exceptionnel. Et je trouve qu'à une époque où on a besoin de remplir des albums, où on se cogne des albums de 15 chansons qui sont pas toutes indispensables, qui d'ailleurs ne sont très rarement indispensables. Là, on a 4 titres indispensables, et quel bonheur. Et le temps aussi, parce que les chansons peuvent aller jusqu'à 7 minutes, comme le dernier titre, ou en faire 2. Ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune importance de remplir un disque. Il a juste proposé ses 4 chansons, celles qui lui semblaient les plus opportunes à être offertes au monde. Et voilà, ce monde, c'est un monde assez merveilleux dans lequel je rentre vraiment avec grand plaisir, et duquel je n'ai aucune envie de sortir. Et même s'il ne sort plus aucune chanson, ce que je n'espère pas, on ne aura eu ces quatre chansons et on en sera déjà très heureux.
Clémentine Galcel, tout à l'heure, vous avez dit égoïsme.
Oui, parce que il faut que j'explique. C'est,
oui,
c'est complètement.
C'est mieux. Vous êtes là pour ça en même temps, donc ça tombe bien.
C'est complètement vertueux, en fait, dans la manière dont je l'entends pour parler de ce disque-là, parce que pour moi, en fait, j'ai découvert Andrea Laszlo de Simone avec un peu la narration qui allait avec lui, c'est-à-dire c'est ce que disait Olivier, le fait qu'il se revendique comme homme au foyer. Je trouve ça très beau, en fait, d'abord qu'un homme revendique la paternité comme une source d'inspiration. Je trouve que ça se fait très peu, que les femmes ont du mal à le faire et qu'on en parle beaucoup en littérature notamment, de la maternité comme source, comme empêchement à créer, mais aussi comme source d'inspiration. Et là, d'avoir un homme qui présente la paternité comme non pas une source de troubles ou un obstacle dans sa carrière, mais comme quelque chose qui une source vive à laquelle aller se nourrir,
c'est très visiblement, beau. Ouais. Mmh.
Et donc, quand je disais égoïsme, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressent très fort dans cette musique, c'est que c'est une musique, on a l'impression qu'elle a été faite dans une pièce, par une personne, et je crois que c'est à peu près le cas, en fait, et que du coup, on est invité à pénétrer l'univers de ce garçon, mais qui est un univers complètement refermé sur lui-même. C'est-à-dire que j'ai à aucun moment l'impression qu'il vient me chercher, et du coup, c'est ça qui me donne envie d'aller vers lui. Mmh. Parce que c'est, voilà, c'est ça, quand je disais égoïsme, il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu à Sybille Bayer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanteuse d'origine allemande, mais américaine, dont le fils avait découvert par hasard dans les années 2000 les chansons qu'elle enregistrait dans les années 70, toute seule chez elle. Et il y a cette mélancolie-là de la domesticité, qui est, je pense, un peu plus joyeuse chez Andrea Laszlo de Simone, mais qui fait écho à ça. Et qui est quelque chose de, je trouve, très invitant parce que qui, sans volonté de faire du charme.
Il vous a charmé quand même, Olivier Lamont. On l'a bien senti dans votre papier dans Libération.
C'est vrai qu'il refuse de parler quasiment de sa musique. C'est étonnant. Enfin, il veut bien vous raconter comment il l'a fait, etc. Mais on a tout ce qu'il raconte en permanence sur la politique, sur la famille, a l'air d'être à côté de sa vie de musicien. Et c'est, ah oui, au fait, la nuit, je fais des chansons aussi. Et je pense pas que ce soit exagéré de sa part, parce que vraiment, tout respire ça. Moi, quand je l'ai interviewé, il y avait son manager dans la salle qui hochait de la tête en soupirant. Il y a vraiment quelque chose de, et on a, il est un peu dans un autre monde. Il y a vraiment, après, c'est pas non plus un artiste qui est déconnecté de la réalité. C'est quelqu'un qui vous parle de politique, qui vous parle de mille choses, mais effectivement, qui vous parle aussi beaucoup de sa paternité et qui dit, moi, je ne vois pas comment je pourrais écrire des chansons sur un autre sujet que sur celui-là. Et moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais des artistes, des hommes qui, dans l'histoire de la musique, qui ont fait de la musique sans se laisser influencer par ce fait-là dans leur existence, il y a que ça. Il dit, bah, moi, je suis pas comme eux. Je voulais revenir sur l'idée de sortir de proposer un disque qui serait trop court. Ce qui est intéressant, c'est que le précédent, Womo Donna, est donc trop long. C'est un disque qui dure 1h15. Lui, il voulait mettre 5 chansons de plus. On lui dit, c'est pas possible, faut faire un CD. Et il s'était jamais posé la question. Il est vraiment dans ce régime créatif-là. Et je tiens à préciser que sur la version disque qui va sortir en format physique, le disque fait 5 minutes de plus, puisqu'il y a des introductions et des instrumentales orchestrales qui permettent, je trouve, de mieux comprendre aussi l'enchaînement des morceaux. Et c'est un choix de son label français que d'enlever ces choses-là pour la version digitale. Et je trouve que c'est un tort, parce qu'on a moins l'impression d'avoir affaire à un projet terminé, fermé, cohérent, que effectivement 4 chansons mises ensemble. Et je trouve que c'est dommage, parce que lui dit qu'il a composé 40 chansons. Il s'est dit, pour moi, ce projet-là, qui s'appelle Immensita, voilà, le paradoxe, se tient avec dans cette totalité-là, avec ses 26 minutes et ses introductions et ses conclusions. Je voulais revenir aussi sur l'histoire de Battisti, parce que c'est vrai qu'on le cite beaucoup. Moi, je pense quand même qu'il partage vraiment avec Battisti un lyrisme, cette faculté à partir de presque rien, d'un coquillage, et d'aller vers l'univers. Il y a beaucoup ça dans les albums de Battisti du milieu des années 70. Je pense notamment à Il Nostro Caro Angelo, qui commençait par une chanson où le mot Immensità revenait beaucoup, qui commençait avec une guitare, une voix guitare, et qui finissait avec un chœur dantesque. Il y a ça chez Andrea Laszlo de Simone, c'est-à-dire l'intimité, l'univers, et c'est extrêmement cohérent, sa manière de tout ramasser. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, quand il y a des cordes tournoyantes qui arrivent comme sur le morceau Mystero, ça n'a pas l'air cuistre ou c'est pas une débauche d'effet, ça sent pas l'argent,
oui, c'est vraiment
on sent que c'est une inspiration, une nécessité, qu'il était devant son Pro Tools, il s'est dit là il faut que je mette ces cordes sinon ce morceau ne sera pas terminé. Il y a vraiment une raison d'être, une nécessité d'enregistrer cette musique qui est très forte et effectivement qui est un peu en porte-à-faux avec une époque où beaucoup d'artistes n'envisagent pas la musique autrement que en termes de carrière. Voilà.
Sophie Rosemont, quelques mots encore sur Andrea Laszlo di Simone.
Ce côté justement un peu irréel mais étranger au monde me fait penser au fait que chacune de ses chansons est une galaxie, hein, c'est une mini-galaxie sonore où les harmonies ont une grande place et lui-même a ce timbre qui est travaillé du point de vue de la production dans ce sens qui semble presque irréel. En tout cas, je trouve vraiment que c'est dans cet écrin musical, et même si hélas je n'ai pas écouté dans son intégralité comme vient me l'apprendre Olivier Lame.
On est frustré, hein.
C'est une petite frustration. Ouais. Et en même temps, ne fût-ce que ça, même en sachant que finalement on nous a livré quelque chose d'inachevé, il me semble très accompli.
Quelque chose d'incomplet plutôt que d'inachevé, il me semble. C'est le mot le plus juste. Clémentine Gottsall, pour terminer.
Oui, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a une scène pop en ce moment qui est incroyable en Italie. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on parle beaucoup de cet artiste-là, mais moi, ça fait quelques mois, un ou deux ans, que j'écoute en boucle Calcutta, Giorgio Poi, Galefi.
Mais il arrive un peu en même temps que toute cette
oui,
scène.
Oui, c'est ça, mais sauf que...
Ouais. Disque, mais c'est
enfin bon, il y a affaire quoi, en Italie. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a des petits labels indés qui sont en train de développer des artistes incroyable et enfin moi j'ai hâte qu'ils arrivent en France effectivement qu'on en parle plus de tous.
Mais il est moins rock hein, que Calcutta.
Oui non musicalement c'est pas pareil mais pour moi la démarche est
il y a quelque chose qui se passe
dans la génération oui j'ai l'impression.
Mais clairement même si quand on lui parle de confiance lui dit non mais vous pouvez pas me parler de confiance avec ce qui se passe en Italie politiquement depuis un an. Il dit c'est un tremblement de terre permanent, c'est le lendemain on a l'impression que le tremblement de terre de la veille c'est une bulle de savon qui vient d'éclater. Enfin voilà, il dit
c'est peut-être de là que jaillit la scène.
Peut-être.
Ouais. Bon, c'est bien que les contextes difficiles peuvent donner naissance artistiquement à des choses extrêmement intéressantes. Il semble que ce soit le cas du côté de l'Italie, en tout cas là concernant Immensità de Andrea Laszlo di Simone. Alors en version non complète sur CD et en version complète sur vinyle. Le vinyle sort à la fin de la semaine, vendredi.
Ça, ouais, sur le label Éclair au choc et Hamburger Records. C'est la première fois qu'un disque d'Andrea Laszlo di Simone sort officiellement en France.
Absolument. Et il sera lui-même en concert au Printemps de Bourges. Le 23 avril, Andrea Laszlo di Simone. Et vous l'avez déjà vu les uns ou les autres en concert, ce garçon?
Il joue très peu. Hein.
Il joue très peu, hein? Oui, parce que pour qu'il s'éloigne de ses enfants, exactement. Ils seront peut-être avec lui à Bourges.
Peut-être.
Allez savoir. En tout cas, c'est le prochain rendez-vous avec lui en France. On va parler dans cette suite d'émissions de Sun Little, de Stéphane Malkmus et de Square Pusher.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Aloha de Sun Little chez Anti Records, Aaron Livingston, dit Sun Little, Stanley. Un musicien américain qui est né à Los Angeles, qui a pas mal bourlingué dans la valise de son père, saxophoniste. Lui, il a choisi la guitare comme instrument de prédilection, même s'il joue d'autres instruments. Et il a aussi écrit pour d'autres, notamment, on en avait parlé ici, pour Mavis Staples. En 2011, il a sorti un disque avec RJD2, en bon français, sous le nom de Icebird, puis il s'est mis au chant. Il a sorti un premier EP en 2014, il a sorti un premier album en 2015, et là, Sun Little est venu enregistrer à Paris ce nouvel album. C'est Renaud Lottan qui a assuré la production. Avant d'écouter un extrait, un premier regard sur ce disque, première oreille, première écoute, Sophie Rosemont.
De la joliesse de la soul.
Ouais, pas très convaincu, on dirait. Clémentine Gottsall.
Ah, moi j'adore.
Bon. C'est plus simple, plus clair. Olivier Lame.
Un désintérêt relativement total qui m'interroge jusque dans mes tréfonds d'auditeur. Ça, je me demande, c'est quoi? Ça veut dire quoi aimer la musique?
Oh,
waouh! Attention, ça promet. Alors, le temps que la température continue à monter, on écoute About Her Again.
Told her I'm good. And she said it was cool. Go on, do what you want. I don't. It's all over again. Yeah. You're gonna mess up my head. You're gonna mess up my head. Smoking.
L'atmosphère s'est apaisée pendant la diffusion de ce morceau de Sun Little. Certainement pas, parce que Clémentine Gueulsel est complètement séchée par ce qu'a dit, avant que nous écoutions ce morceau, Olivier Lam, qui présage d'une passe d'armes.
Ah ouais, bah,
pour que la dispute mérite son nom.
Je suis choquée. Je suis kécho, comme disent les jeunes.
Non, ils disent pas du tout ça, les jeunes. Plaqué au sol, si vous voulez. Mais,
ah ouais,
mais comment vous dites?
Kécho. Quoi? Enfin bref, je suis choquée parce que vraiment, en fait, en préparant l'émission, effectivement, on nous demande toujours un peu, est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler, tout ça. Et donc, je m'étais dit, bon, comme d'habitude, parfois, j'apporte des sujets un petit peu controversés dans cette émission. Je m'étais dit, je vais apporter quelque chose.
Vous n'êtes pas la seule, rassurez-vous.
Non, je sais. Mais je m'étais dit, par souci d'entente cordiale avec mes collègues, je vais apporter un truc qui est franchement indiscutablement agréable et qu'on aime ou pas. C'est vraiment, ça fait tellement chaud.
Heureusement, opiné. Pourtant, je sais qu'elle n'a pas les mêmes goûts que vous.
Non, ça, je sais. Mais bon, et ben non.
De semer la discorde, hein, absolument. C'est donc, pourquoi est-ce que vous aimez Sun Little, Clémentine?
En fait, bon, moi d'abord, j'adore la soul, donc je pense qu'Olivier va dire que c'est de la sous-soul.
De la soupe-soul. Mais... Non, mais Il parlera dans un instant.
Moi, j'aime. C'est une musique que j'aime. Donc, j'aime beaucoup Son Little depuis ses débuts. J'aime sa voix, j'aime le grain de sa voix. J'aime. Il est un petit peu d'ailleurs comme Andrea Laszlo De Simone. Il fait tout seul. Il joue tous les instruments tout seul. Il est né en Californie, mais il a grandi à Philadelphie. Et je trouve qu'il y a.
Et à New York.
Ouais, sur la côte est, quoi. Il y a un groove et une chaleur qui se dégage de ce qu'il fait, qui, moi, me parle énormément. Il a travaillé avec des artistes que j'adore, Mavis Staples, vous avez dit, mais avec Kelis, avec The Roots, avec Leon Bridges, et ça s'entend. Pour moi, c'est un univers qui me plaît, qui me parle et que j'aime, qui est un petit peu nostalgique, mais que j'apprécie. Et je trouve que lui, il en fait quelque chose de très intéressant, parce que j'ai pas l'impression que ce soit de la soul des années 60. Si vous voulez, le premier album de Michael Kiwanuka, par exemple, était vraiment une réplique sépia dans le son et dans les couleurs des années 60. Et là, je trouve que c'est un son qui est à la fois complètement d'aujourd'hui et en même temps qui fait un trait d'union avec les origines de cette musique qui remonte, en fait, évidemment, au blues. Et puis, j'apprécie beaucoup son évolution artistique. C'est un artiste donc qui avait l'habitude de travailler tout seul et qui cette fois-ci a travaillé avec Renaud Létang, qui avait l'habitude d'enregistrer en Californie, qui cette fois-ci a enregistré à Paris, qui avait l'habitude de jouer tous les instruments tout seul et qui cette fois-ci a laissé un petit peu à Létang la possibilité de jouer quelques trucs. Et donc du coup, je trouve que son son évolue, je trouve que sa musique évolue, qu'il n'est pas du tout enfermé dans la nostalgie, et ça parle à mon cœur, quoi. Je trouve que ses chansons sont parfaitement charpentées, parfaitement exécutées, très bien écrites.
C'est un avis que ne semble pas partager Olivier Lame, qui s'interroge en écoutant ce disque de Son Little.
Oui, non, mais après, je suis certain que certains arguments que je pourrais utiliser à charge contre ce disque, je pourrais les utiliser de manière positive pour un autre disque. Clémentine a utilisé le mot cœur. Moi, là, pour le coup, mon cœur...
reste froid.
Il est plus que froid. Moi, j'entends une musique de série Netflix avec des gens qui sourient de manière forcée. Je sais que c'est... Donc pour le coup, c'est vraiment c'est un rapport à l'authentique. Et du coup, moi, comme je passe mon temps à déconstruire le fait qu'en tant qu'auditeur...
Vous voyez, même votre téléphone n'est pas d'accord avec vous, il est désolé.
Siri n'a pas compris ce que tu essayais de dire.
Je passe mon temps à déconstruire notre soif d'authentique quand on écoute de la musique, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on met un micro devant quelqu'un et où il y a du courant électrique, c'est plus authentique, qu'il y a déjà une fiction qui se passe. Et ben moi, là, je n'entends que du faux, et je suis mis en porte-à-faux vis-à-vis de mon expérience d'auditeur. Culturellement, je ne m'y retrouve pas, je suis dans un effroi total. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un grand connaisseur de soul comme Clémentine ou d'autres, mais évidemment, je
connais vos classiques quand même.
Voilà, je connais mes classiques et je peux m'y référer comme effectivement.
Est-ce que ça vous fait de l'effet des classiques?
Bien sûr, bien sûr.
D'accord. Non, mais ça
même
pourrait
si,
être.
Même si effectivement, on peut aussi argumenter du fait qu'un chanteur de soul, je ne sais plus quel critique de rock. Théoriser ça et moins l'interprétation d'une fausse authenticité que dans une représentation plus théâtrale, en fait. L'émotion de la soul passe par quelque chose de plus assumé comme faux ou simulé, si vous voulez. C'est un autre sujet.
Peut-être
ça se discute, mais
largement, oui.
Ça peut se discuter, mais en tout cas on pourrait dire que, je sais pas, on va dire, la fausseté est plus facilement, celle de Lou Reed, par exemple, est plus facilement admise et plus, dans le cadre du rock que dans le cadre de la soul, par exemple. Bref, c'est une théorie comme
ça. Elle est plus évidente.
Elle est plus, mieux acceptée. On va dire par un auditeur, on va dire habitué à certains codes. Bref, moi là, je vois des codes qui sont recréés. Je pense que c'est pas une histoire de sincérité ou de non sincérité. En fait, je m'en fiche. C'est juste que je suis sûr qu'il y a des idées musicales, d'arrangement, d'enregistrement qui sont intéressantes dans ce disque. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont bien interprétées, mais je m'en fiche parce que je n'arrive pas à être ému parce que j'entends du, non seulement j'entends du théâtre, mais en plus j'entends effectivement un âge d'or qui est recréé absolument à l'identique. Alors peut-être c'est moins sépia que d'autres choses, mais enfin c'est quand même, il n'y a pas du tout de, moi je vois pas de vie, en fait je vois pas du tout d'élan vers la volonté d'exprimer autre chose que éventuellement une tradition qui aurait été reçue d'un maître ou d'un ancêtre. Mais moi, alors là, je suis complètement perdu, en fait, par rapport à ce genre de disque, comme j'ai pu être perdu devant les disques de et son nom va m'échapper.
Bon, vous avez été.
Bon, c'est pas très important, mais et là où je suis aussi, ce qui m'interroge, c'est que je suis obligé de parler de mon expérience d'auditeur et de mon petit individu qui a priori auquel je fais assez peu appel quand je critique de la musique. Enfin, j'essaye de le plus possible, même si évidemment il y a un point de départ qui est forcément une expérience, on va dire intime. Mais enfin, j'essaye a priori de le déconstruire et de m'en éloigner pour arriver à quelque chose d'un peu cohérent. Et là, j'arrive à rien d'autre qu'à du dégoût, ce qui est a priori un sentiment tout à fait incohérent. Voilà. Je m'en...
Non, c'était clair dans votre expression. Pardon. Sophie Rosemont, qu'on n'a pas entendu sur. Sur ce disque.
Déjà, parlons un tout petit peu de ce disque, de façon peut-être plus pragmatique. Je trouve très intéressant de souligner le fait qu'il est né d'une catastrophe, c'est-à-dire que Son Little a écrit des chansons destinées à devenir Aloha, qu'il a tout perdu dans un disque dur, qu'il y a eu le choc, la colère et puis la résilience. Il a tout réécrit en 8 jours dans une ferme californienne et ensuite il est allé façonner tout ça avec Renaud Létang. Était-ce une bonne idée ou pas? Oui, mais je pense que c'est important de le dire parce que l'album parle de résilience. Concernant l'aspect tout autour de, on va dire, ce débat sur la soul, étant particulièrement versé dans la soul en ce moment, j'écris là-dessus beaucoup. Il est vrai qu'on peut pas vraiment inscrire Son Little dans les grands chanteurs soul, que ça soit des Sam Cooke ou des Curtis Mayfield, même s'ils étaient dans Dance Funk ou des Bill Withers, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense qu'il ne le souhaite pas, étonné qu'il fait de sa musique un melting pot musical qui, à mon avis, doit agacer Olivier Lam, parce qu'on entend aussi bien du blues que des échos un peu funky, effectivement de la soul années 60, plutôt motone, parce qu'elle n'est pas du tout engagée. Ici, on parle plutôt d'amour, du manque de l'autre, mais qui semble pas engagé, mais quand il parle de son grand-père qui est allé de Louisiane à Los Angeles pour reconstruire sa vie, ou de la dépression de son oncle, il y a quelque chose qui touche à ça. Donc, tout ça pour dire que moi, je n'ai peut-être pas été autant touchée que Clémentine, mais en revanche, je trouve que c'est un album qui est bien fait, qui témoigne quand même d'une dextérité d'instrumentiste qui est celle de Son Little, qui est un album de musiciens qui sont pas mal amusés en le faisant. C'est des chansons qui sont assez immédiates. Maintenant, alors voilà, contrairement au disque d'Andrea Lato de Simone. C'est très dur d'en parler aussi après un disque comme celui dont on vient de parler. Parce que là, sur les 12 titres, forcément, tous ne sont pas indispensables. Les compositions, je trouve qu'elles sont pas toutes inspirées. Mais il y a quand même des très beaux titres. Vraiment, des très, très beaux titres. Est-ce que ça a été peut-être trop produit? Je ne sais pas. Est-ce que l'immédiateté n'a pas été un peu cassée? Mais du point de vue de la composition, il y a vraiment des points d'orgue. Je pense à l'ouverture de Never Give Up. Je pense à I'm Losing You, à Mahalia, évidemment. Alors, à Mahalia, là, on ne peut pas ne pas penser à Mahalia Jackson. Parce que finalement, avant le blues, il y avait le Negro Spiritual et le Gospel. C'est comme ça, de là, tout est parti. C'est un disque, en tout cas, qui est très personnel. Donc, je reviens vraiment sur cette notion de résilience qui me semble assez importante. Cette notion aussi d'insoumission face au coup dur qui va de pair, et qui fait qu'au final, moi, j'ai été séduite par ce disque, sans en être aussi admirative que Dimensita, par exemple. Mais après, on est sur deux univers complètement différents, deux approches différentes, et personne n'est plus sincère que l'autre.
Oui, la question de la sincérité, alors c'est
pas du tout, je crois que là, elle se pose même pas
mais,
ici.
Entre critiques dans cette émission, c'est une question qui revient souvent, et en fait, elle est évidemment intranchable. On va pas passer les artistes sous des détecteurs de mensonges, donc il y en a qui entendent une sincérité, d'autres qui entendent une absence de sincérité. Moi, j'entends un disque aussi lascif que politique, et ça me plaît bien, j'avoue que Son Little, moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas écouté avant, et j'étais sensible à sa voix, tout comme vous, Clémentine. Vous voulez conclure cette séquence?
Oui, je pense que effectivement le débat sur l'authenticité, la sincérité pour moi est complètement caduque en art, mais je crois qu'il faut... la soul, c'est difficile de l'écouter, Sophie parlait de l'aspect politique, et en fait dans la démarche c'est politique, effectivement, parce que il est qui il est, né où il est, au moment où on est, c'est politique. Et l'affiliation avec la musique noire américaine, avec l'église noire américaine, son père était pasteur, et c'est pour ça, il était pasteur et saxophoniste, c'est pour ça qu'ils ont bougé tellement, ça fait que cette musique, elle est traversée de politique, et moi, c'est peut-être aussi ce qui me touche, c'est peut-être ça que je ressens, en fait, dans le côté mondain et rien du tout des histoires d'amour, parce que les paroles n'ont pas grand intérêt. Il y a quelque chose d'une intensité, je trouve, qui me transperce un peu.
Écoutez, par vous-même, pour vous faire votre propre opinion, Aloha de Son Little chez Anti Records, et sachez qu'il sera en concert vous ne voulez pas croiser Olivier Lam, vous pouvez aller à la Maroquinerie le 30 mars à Paris. A priori, il ne devrait pas y être, mais d'autres.
Mais c'est très bien, Sun Little en live. Très, très bien. Je viens de préciser pour nos auditeurs.
30 mars, Maroquinerie. C'est l'heure d'un autre coup de cœur pour Olivier Lam, qui en a pas mal ce soir. Hein. Mais ça, c'est un solo. Un solo pour Square Pusher, Be Up, Hello. Vous savez, deux hypothèses, hein, deux choix. Choix A, un extrait du morceau avant que vous ne parliez. Choix B, vous parlez et ensuite on écoute un extrait.
Non, on va écouter l'extrait d'abord parce que sinon je vais trop parler et on n'écoutera pas assez, donc ça serait dommage.
Choix A pour Olivier Lam. Olivier Lam, alors on écoute en ce moment un extrait de nouvel album de Square Pusher. Quelle drôle de musique !
Bah, drôle de musique, c'était...
Musique drôle.
Musique d'une autre époque, musique de la fin des années 90. Oh. Non mais c'est vrai en plus. Alors, je resitue rapidement, c'est le 15e album de Tom Jenkinson sous le nom Square Pusher. C'est un homme qui a 45 ans, qui est anglais, qui a sorti son premier album sur Reflex, le label d'Aphex Twin. En 96, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'est un artiste qui me touche tout particulièrement dans cette constellation qu'on dit Electronica, IDM, bref, il y a plusieurs appellations. C'est un des plus touchants auteurs, au sens où il raconte quelque chose de son existence. Là, particulièrement, il raconte quelque chose de son passé, un ami qui disparaît, la nostalgie qui repousse à faire des disques, en réutilisant la technologie qu'on utilisait quand on avait 18 ou 20 ans. C'est étonnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, surtout ces dernières années. Il a fait beaucoup de disques qui n'ont absolument aucun intérêt avec une technologie de pointe. Il a fait un disque avec des robots, il a fait une espèce de disque de jazz rock complètement délirant. Et là, il a ressorti, a priori, ce qui est son petit logiciel sur son vieil Atari. Il a refait un disque à l'ancienne, et il a fait un disque qui est totalement dans sa zone de confort. Alors ça peut l'air paradoxal quand on entend ce qu'on vient d'entendre. Moi, c'est une musique qui est voilà une madeleine totale, puisque c'est la musique que j'écoutais à peu près au même âge que où il la faisait. Mais et c'est une musique où il refait vivre voilà un moment, on va dire, de un âge d'or qui est le sien, et du coup le disque n'en est que plus touchant par ce biais-là, par ce prisme-là, mais aussi, c'est aussi un disque qui évidemment continue à regarder vers l'avenir, qui a un avenir plutôt angoissant et dystopique. Voilà, c'est un disque de retrouvailles. Voilà, les gens qui éventuellement aimeraient beaucoup Aphex Twin et ne connaîtraient pas Square Pusher peuvent aller écouter ce disque qui vient de sortir sur Warp, qui est son label historique. Voilà.
Be Up a Hello de Square Pusher.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier disque à notre sommaire ce soir, c'est Traditional Techniques de Stephen Malkmus, encore un Américain, qui est né lui à Santa Monica. Il est connu pour être l'un des fondateurs et chanteurs du groupe Pavement, et depuis 2001, avec ou sans son groupe les Jigs ou d'autres, parce que sa géographie a une géométrie assez variable, Malkmus a sorti quantité de disques. Celui dont on va parler ce soir est présenté comme son troisième album solo. On peut en discuter, on va écouter un morceau de ce disque, Cyan Man.
You don't need headlights to see. Open your mind back to the love of a Christian man. The wheels do stop. Mine is your neighbor for the love of a Christian man. I'm Miles Davis, better than any
un premier regard, un premier commentaire sur ce disque de Stéphane Malkmus, traditionnel technique. Sophie Rosemont.
Ah, d'accord, donc je commence, très bien.
Ah non, juste alors, un avis.
Ah, un avis, un avis.
Il faut suivre, Sophie, vous. C'est pas votre première dispute tout de même.
Je venais de vous sortir une petite blague, Arnaud Laporte,
oui,
et ça m'a déconcentré.
Antenne, ça.
Donc je vais copier Clémentine. J'aime beaucoup.
Clémentine, Goldsal.
Bad Trip.
Ah. ça peut signifier pas mal de choses. Et Olivier Lam,
Charme et complexité.
Ça peut signifier aussi pas mal de choses. Alors que Sophie Rosemont, c'est clair, c'est elle qui commence.
Ok. Commençons.
Donc c'est
par
là que vous développez, hein, je vous rappelle le concept un peu de l'émission et son découpage.
Merci, Arnaud.
Ça s'appelle la dispute, on est sur France Culture.
Donc, traditionnelle, la technique, excusez-moi pour mon accent, donc on va dire technique traditionnelle. Double lecture déjà de ce titre. D'une part parce qu'il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire Stéphane Macmus.
Bien fait de
venir.
Je perds
10 minutes. Stéphane Macmus se sert de beaucoup d'instruments organiques pour faire cet album, très peu de synthétiseurs, sans quoi c'est une autre face de l'album précédent qui s'appelait Groove Denied. Stéphane Macmus était très très prolifique et donc son dernier disque qui est sorti en 2019 était à la fois garage et très synthétique, pas du tout celui-ci, on est vraiment dans l'organique. Et aussi une référence à Théodore Adorno, dont on savait qu'il détestait la pop, qu'il trouvait que c'était pas assez pur, pas assez exigeant, que ça nous infantilisait. Et il reprochait aux Beatles, après leur découverte de l'Inde, de, je cite, dégrader la forme de technique traditionnelle. Et clairement, ici, Stéphane Macmus prend ce contre-pied. Pour lui, au contraire, la musique pop, même si elle est nourrie aussi, ici de beaucoup d'autres choses, est un formidable message pour faire passer ce qu'il ressent. Donc ici, c'est quoi ce qu'il ressent? C'est quoi le message? C'est un homme qui se questionne. C'est un homme qui marche, petite référence à notre ami Pérec, mais par contre qui ne voit jamais plus loin qu'Instagram, surtout en ce moment. Donc on a des paroles, comme toujours chez Macmus, c'est ça qui fait toujours son charme, c'est son écriture, c'est cynique, sarcastique, parfois c'est juste assez drôle, et derrière tout ça une émotion et un humanisme que je trouve vraiment extrêmement touchant et extrêmement pertinent. Et ça, ça remonte très loin à Pavement déjà, ce qu'on appelait le slacker rock, ce rock fait souvent par des étudiants à la fois nonchalants et intello, qui se réclamaient aussi bien de The Fall que de Rosemary Trocal ou de Lou Reed. Donc ça, on le retrouve, c'est quand même le terreau qui est toujours derrière, et en même temps c'est un nouveau chapitre, c'est du folk qui est nourri d'ailleurs et à la fois qui reste très américain. Donc en cela, il s'inscrit, je suis un peu longue, mais il s'inscrit dans les traces de George Harrison, post-Shankar, mais plutôt du côté afghan, du côté...
Si vous avez une carte, hein, vous pourrez retrouver toutes les indications de Sophie Rosemont.
Avec notamment ce musicien extraordinaire qui est Kaïs Essar, qui donc joue du rabab, et aussi Matt Sweeney, qui est un musicien américain, un guitariste notamment. Tout ça pour dire que c'est un excellent album et qu'il nous ouvre une fenêtre sur aussi bien ce qu'on peut voir juste là, à deux pas de chez nous, et sur des pays très lointains qui ne le sont pas, finalement. Je laisse la parole avant, j'espère, de pouvoir la reprendre.
Peut-être. Clémentine Goldsan.
Oui, alors, bon, le voyage, non mais...
Ça commence bien.
Non, parce que je suis un peu... Le voyage, je veux dire, bon, apparemment, il est tombé par hasard sur des instruments afghans dans le studio de Portland, où il a décidé
narration
d'aller
quand
enregistrer.
Quand tu nous tiens.
Ouais. Non, mais c'est-à-dire que bon...
Il aurait pu trouver une guimbarde et ça aurait fait un autre disque.
Oui, exactement, c'est ce que je pense un peu. Il y a un côté, bon, opportuniste, ok, pourquoi pas. Il trouve des instruments afghans, il les intègre à son truc. Il y a quelque chose...
On pourrait dire curieux aussi.
Oui, curieux. Non, bah curieux, c'est sort de Portland, voyage et va en Afghanistan pour rencontrer des Afghans. Mais bon, là, pour moi, l'invitation au voyage sur ce disque, je la sens pas particulièrement. En revanche,
que vous avez du mal avec sa sincérité, peut-être.
Exactement. Oui, je le sens pas du tout sincère. Non, je plaisante évidemment parce que je pense qu'il est très sincère, comme à peu près tous les gens qui consacrent quand même leur vie à faire un truc qui est pas forcément marrant tous les jours et qui garantit pas une retraite facile ni une assurance santé considérable. Mais je pense qu'en revanche, il y a un petit, sur effectivement la narration, il y a un petit opportunisme. Ensuite, moi, c'est, mais de Pavement à la carrière solo de Stephen Malkmus, moi, c'est quelque chose qui est quand même basé un petit peu sur la dissonance, et moi, j'adore les harmonies. Ça me brosse un peu à l'envers, quoi, du poil. Si vous voulez, c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus. Ça me donne un petit peu le tournis, ce disque, et j'ai l'impression que c'est pas vraiment fait pour moi, que j'y comprends pas grand chose. J'ai un peu l'impression d'être, c'est pour ça que je disais bad trip, j'ai l'impression d'avoir pris une drogue et de pas être dans la bonne musique. Vous voyez? Un peu genre, si vous prenez de l'ecstasy, mais vous allez à un concert de hip-hop au lieu d'aller à un concert de techno.
Dans tous les cas, ne le faites pas. Pardon?
Pardon.
Non, pas d'apologie. Hein, des prises de substances illicites.
Ouais, c'est un peu dangereuse. Pour moi.
Très bien.
Je suis pas bien câblée pour cette musique-là.
Câblée. J'avais pas entendu ça depuis 87. Merci beaucoup, Clémentine. Olivier Lame.
Non, mais l'expérimentation, là, elle est quand même dans un champ musical très, enfin, on va dire, enfin, qui n'est pas particulièrement dissonant, enfin, qui n'est pas particulièrement déconstruit, ou contrairement à ce que faisait Pavement à ses débuts. Là, le voyage, c'est celui de Stephen McMuse dans la musique américaine traditionnelle, principalement, ce qui est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Mais après, il aborde ça exactement comme il avait abordé son disque précédent, qui était soi-disant son premier disque électronique, donc sur lequel il faisait des chansons comme il en a toujours composé. Donc, il y a une jolie tension, je trouve, entre toujours la volonté ou l'affichage d'aller vers quelque chose de nouveau et finalement de faire plus ou moins la même chose, tout en continuant à avancer. Les disques de Stephen McMuse, c'est des disques qui sont faussement nonchalants, c'est des disques de vrais de fans de musique. Et là, pour moi, c'est la carrière, la deuxième partie de la carrière de Jonathan Richman après les Modern Lovers, c'est-à-dire que ça a l'air inoffensif et ça raconte des choses. Là, il y a des, on pourrait citer des paroles, ce qu'il raconte sur notre monde.
Citer, si vous
voulez. Ah bah, j'en ai traduit, donc.
Bah oui, c'est pour alors, ça.
Au top sur travail, Reddit, vol de karma au-dessus de champs de blé Amazon et de rivières de Red Bull, des gouttes et flots de data poussés par le vent qui passent directement à la partie où les beaufs de gauche font des parodies de TED Talks. Voilà. C'est ça qui raconte derrière cette Americana un peu obsessionnelle. Je voulais revenir une seconde sur la citation d'Adorno.
Tragique.
Non, mais qui est évidemment une plaisanterie de sa part. Ce qu'Adorno reprochait aux Beatles en parlant de technique traditionnelle, c'est de faire une musique qui était faussement innovante. C'est de faire une musique en fait extrêmement traditionnelle. Et lui, en fait, cherche en fait sa propre innovation au sein effectivement de formes musicales qui ont l'air, comme le morceau qu'on vient d'écouter, qui on voit et du Velvet Underground, un petit peu. Un petit peu dégondé, un petit peu mais finalement il poursuit un travail de songwriter assez traditionnel et innovant en même temps, comme Dylan a pu le faire toute sa carrière, et je trouve que ce moment mature de sa carrière est vraiment très nourrissant, très enrichissant à suivre. Album après album, c'est vrai qu'il en sort à peu près deux par an en ce moment. C'est un classique américain, comme il y en a quelques autres dans sa génération, notamment son grand ami David Berman, qui est décédé l'an passé des Silver Jews et qui était aussi un membre fondateur de Pavement avec lui. Voilà.
Bon, moi je suis plutôt comme Clémentine Gressel, on ne peut pas dire que ça me bouleverse outre mesure quand j'écoute Stephen McMuse, contrairement à Jonathan Richman. On est quand même à des années-lumière au niveau de l'intensité.
C'est quand même très drôle. C'est quand même, il ose chanter dans cet album. Moins, je suis voyez. Plus Miles Davis que toi. Je trouve ça assez rigolo. Et comme disait Kornelov, et Kornelov a toujours raison, on le sait, Stephen McMuse, c'est la grâce Kelly de l'indie rock. Voilà.
Ouais, c'est quoi cette citation? Ça veut dire quoi?
Eh ben, elle a dit ça de Stephen McMuse et il a beaucoup aimé.
Et vous aussi, donc. Oui, et donc, vous aussi. Le répétez.
Oui, je le répète.
Et vous pensez que c'est...
Eh ben, je pense que c'est une raison de plus pour aimer Stephen McMuse. Non, il y a beaucoup d'humour dans cet album. Les textes sont extrêmement acides. Et de toute façon, le premier degré n'existe pas chez McMuse. Il n'a jamais existé. Et sous couvert, effectivement, d'un folk assez classique, ouais, ces techniques traditionnelles. Aussi, mal, il y a quelque chose qui se passe. Là, la politique, elle est là, en fait. Elle est là beaucoup plus que chez Son Little, en l'occurrence. Même si j'aime aussi le disque, là, McMuse, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement à la fois nuancé, à la fois nonchalant. Justement, j'avais noté nonchalant et intello. Et quand je parlais d'un mélange de sarcasme et d'émotion, c'est exactement ça. C'est cacher cette recherche d'amour et de générosité et d'un monde meilleur derrière un humour vraiment extrêmement décapant, acide et parfois qui fait un peu mal. Et là, ici, avec une structure comme il l'aborde quand même de façon assez novatrice, parce qu'elle est quand même très organique, classique, donc traditionnelle et technique à la fois.
Le mec de Portland qui se plaint des nouvelles technologies, juste là, il faut quand même.
Son album précédent était un album électronique, ça n'a rien à voir. C'est une,
c'est fini. De toute façon,
capitaliste, pas de technologie. Discuter.
Dehors. Non, traditionnel technique. L'album de Stephen McMuse, c'est chez Domino. Avant de conclure cette émission dans le calme, la joie et la bonne entente, c'est l'heure du jeu de la dispute. Lola Schindler nous a rejoint. Elle va nous rappeler la question d'hier pour donner sa réponse dans un premier temps.
Quel autre texte de Peter Handke, Alain Françon a-t-il mis en scène en 2015 pour le théâtre de l'Odéon? Et la réponse est toujours La Tempête.
Quel autre texte par rapport à celui qui débute ce soir au théâtre de la Colline, et dont on parlera, je pense, lundi prochain dans la dispute. Ce soir, on fait gagner des exemplaires du livre Narcisse n'est pas égoïste de Fabrice Midal. C'est une coédition France Culture et Flammarion Versilio. La question, Lola?
Comment s'appelait la chronique présentée par Fabrice Midal sur France Culture l'été dernier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Lola Schidler. Prise de son ce soir, Élise Le, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, une dispute art plastique à 19h, bien sûr, avec Corinne Rondeau, Sarah Hélermeyer et Fabrice Bousteau. Nous parlerons de Cézanne et les maîtres rêves vitalistes à Marmottan Monet. Erwin Worms Photographs, c'est à la Maison Européenne de la Photographie. Nous évoquerons l'ouverture de la FAB d'Agnès B. Et un coup de cœur de Sarah Hélermeyer pour l'exposition de Jordan Wolfson à la galerie David Zwirner.